va redémarrer au début du Pérek Memchet, rapidement lesquelles les premières lignes pour nous remettre dans le contexte. Je voudrais juste faire un point où on en est. On a expliqué à partir du chapitre 46 le concept de Hakarat Hatov, le concept de la reconnaissance. En vérité, on devrait être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. On a expliqué une métaphore que s'il y a une personne qui est défavorisée et que le roi en personne va venir et va le faire entrer dans son palais, il va le favoriser encore plus que ses ministres et ses princes, c'est clair que cette personne-là, à un certain moment, il va sentir qu'il doit quelque chose au roi. Donc normalement, nous qui sommes sortis d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, qui étions défavorisés, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, quelque part, on doit se sentir reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que même si on n'a pas envie d'aimer, de craindre Akadosh Baruch Hu, mais ne serait-ce que pour le fait qu'il nous a fait sortir d'Égypte, et qu'il nous a donné la Torah, donc qu'il nous a... ça veut dire que grâce à lui, on a quitté notre situation dans laquelle on était défavorisé. Et il nous a favorisé encore plus que les malachim, encore plus que ses ministres. Il nous a donné la Torah. Juste pour ça, on devrait être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a expliqué, dans le chapitre 47, on a parlé d'un problème. On a dit, oui, mais tout ça, c'est bien beau. Mais la sortie d'Égypte, ça s'est passé il y a 3000 ans. Nous, on n'est pas sortis, enfin, nos parents, ils sont sortis d'Égypte. Nous, on n'est pas sortis d'Égypte. Donc, comment tu veux que je me sente reconnaissant envers quelqu'un? Tu me dis qu'il nous a fait sortir d'Égypte, qu'on n'était pas bien, qu'il nous a donné la Torah. Mais c'est très difficile à se sentir concerné, puisque d'y croire, c'est facile, mais de se sentir concerné, je te rappelle ce qu'on a expliqué, t'es avec nous, de se sentir concerné par la sortie d'Égypte, c'est très difficile. Et là, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 47, tu étais là, tu te rappelles ce qu'on a expliqué? Que la sortie d'Égypte, c'est pas seulement la sortie d'Égypte physique, mais c'est aussi une sortie d'Égypte qui est constante, tous les jours. On a dit que Mitzrayim en hébreu, ça vient du mot Metzarim, les limites. Et que tous les jours, lorsque grâce à une mitzvah, grâce à un shabbat qu'on va faire, grâce à une tfila qu'on va faire, grâce à toutes les mitzvot qu'on va faire, ben ça va nous permettre de quitter pour quelques instants, quelques heures, les limites du matériel, et à un certain moment on va se sentir propulsé vers le spirituel, ça s'appelle aussi sortir d'Égypte. Donc juste pour ça, on devrait être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Ça nous a toujours pas satisfait. Pourquoi ça nous a toujours pas satisfait? C'est pour ça qu'on va avoir besoin du chapitre 48, Perek Memchet. Puisque encore une fois, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, je vais un peu vite parce que c'est des notions qu'on a déjà expliquées plusieurs fois. Dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le roi et avec la personne qui est défavorisée, on l'a appelé le clochard, les repères sont clairs, les repères sont définis. Le roi, on sait qui il est, d'accord? Ça veut dire que le roi sait qui est la personne défavorisée sait qui est le roi, la personne défavorisée connaît la rue, il connaît le palais, ça veut dire que les repères sont clairs. Donc quand cette personne qui est défavorisée prend conscience qu'on l'a fait rentrer au palais et qu'on va le faire rentrer dans le Saint des Saints, si on peut dire, ça veut dire devant le trône, et que même les ministres ne rentrent pas comme ça, et puisqu'il a un repère, même si il n'est jamais rentré dans ce repère, mais il a un repère. Donc c'est pour ça que il va se rendre compte que là on m'a fait quelque chose de bien. Le problème que nous on a, pourquoi même lorsqu'on va nous expliquer que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, même lorsqu'on va nous expliquer que cette sortie d'Égypte est quelque chose de constant. Et pourtant, on a du mal à se sentir concerné, on a du mal à se sentir redevable envers Akadosh Baruch Hu pour ça. Bon, tu me dis, je fais pour la Emouna, il n'y a pas de problème, Emouna, Emouna. Mais on a du mal à se sentir redevable à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a du mal à se sentir redevable à Akadosh Baruch Hu? Notre problème, c'est parce qu'on n'a pas de repère. On n'a pas de repère. C'est-à-dire que quand j'essaie de m'imaginer que Dieu il m'a fait quelque chose, j'ai du mal à m'imaginer d'abord qui est Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu, et en quoi Dieu m'a fait quelque chose. Je ne peux pas m'imaginer. Pourquoi? Parce que j'ai pas de repère. Je vois pas comment. Moi je suis là, le palais est là, et le roi m'a amené au palais. Le palais, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, je ne le vois pas. Donc ce qu'on va essayer de faire dans le Pérec Memprès, dans le chapitre 48, on a déjà commencé à le faire, c'est on va essayer de poser des repères. Alors, on ne va pas expliquer ce que c'est Dieu, on ne pourra pas expliquer. Comment on va procéder? On va parler de la manière comment Dieu a créé le monde, du procédé comment Dieu a créé le monde. Et en étudiant le procédé comment Dieu a créé le monde, on va comprendre la distance qu'il y a entre Dieu et nous. Ça veut dire que, si je reprends mon exemple avec le palais, on va pas rentrer dans le palais, on pourra pas comprendre ce qui se passe dans le palais. Mais au moins, on va être capable de réaliser la distance qu'il y a entre le palais et nous. C'est le but du Pérec Memchet, du chapitre 48. Et une fois qu'on va réaliser la distance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous, ce sera beaucoup plus facile pour nous de comprendre qu'on doit être redevable envers Akadosh Baruch Hu, qu'on lui doit quelque chose et qu'il ne nous doit rien du tout. Donc on essaye de poser des repères dans le Pérec Memchet. Alors dans le Pérec Memchet, on lit dans les mots. Veiné. Kasher itbonen amaskil bigdulat en sov baruch. Lorsque on va réfléchir dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Ensof Baruchu. Donc le terme Ensof Baruchu, l'infini. D'accord ? Akadosh Baruchu, il est appelé l'infini. Infini béni soit-il. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Akadosh Baruchu est infini ? Donc encore une fois, rappelez-vous, on est en train d'essayer de poser des repères. Alors, d'essayer de comprendre comment Akadosh Baruchu a créé le monde, qui on est par rapport à Akadosh Baruchu. Donc il explique comme ça. Quand on va essayer de comprendre la grandeur de l'infini, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire Ensof ? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle pas Dieu dans le Zohar. En général, on l'appelle Ensof. Ensof, c'est l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire l'infini ? Infini, infini, ça veut dire qu'il a démarré. Ça veut dire quoi infini ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en disant infini ?
Ensof fait partie des noms de Dieu.
Oui, c'est pas les noms, ça fait partie des descriptifs de Dieu.
Comme
Elohim, mais bon, sauf que Ensof, c'est pas un nom de Dieu. C'est un descriptif. Mais c'est le descriptif le plus connu dans le Zohar. Quand on sert par défaut.
On n'a pas le droit de l'écrire.
Si, on peut l'écrire.
Si, on peut l'écrire. Donc c'est pas un nom.
C'est pas un nom de Dieu.
C'est pas comme
non.
Les myriades. C'est un...
Non. C'est pas comme le nom. C'est pas comme tous les noms de Kadosh Baruch Hu. C'est un descriptif. Mais c'est un descriptif qui est le descriptif le plus répandu. Ensof Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu est infini ? Explique ici la Dmorazaken. Si tu veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, que la lumière de l'infini, que Dieu est infini, traduis. Ensof Baruch Hu. C'est une lumière qui est infinie. Ça veut dire quoi une lumière qui est infinie? Ve enket vetachlit klal, le or vechayut amitpachet umenu, personu apachut umyuchad, ve mauto, vatmuto itbarim vetachlit aïchun. Qu'est-ce que ça veut dire une lumière infinie? Ça veut dire une lumière qui n'a pas de but. Alors, on a expliqué la semaine dernière dans le cours, bon, on ne va pas répéter tous les détails, mais le concept, on avait expliqué, que le système, le concept même de notre monde, c'est un concept de cause à effet. Il n'y a rien dans ce monde-ci qui n'est pas l'effet d'une cause. D'accord? Donc c'est le fameux exemple de l'œuf et de la poule. D'accord? Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas la cause d'un effet. Donc qui dit cause à effet, dit que chaque chose a un but. Par exemple, le but de l'œuf, c'est de donner naissance à la poule. Une fois que l'œuf a donné naissance à la poule, ben l'œuf a fini son rôle. Donc c'est fini. La coquille de l'œuf, c'est fini, elle va partir, elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire que chaque chose dans notre monde a un but. A un but pour faire partie donc, du système d'enchaînement du cause à effet qui est dans le monde. C'est un système qui existe depuis Adam Harishon. C'est ce qui fait qu'on va donner naissance à d'autres personnes, c'est ce qui fait qu'un arbre, avec la graine d'un fruit, on va planter un autre arbre. C'est le système de cause à effet. C'est comme ça que le monde a été créé, c'est comme ça qu'on trouve les virus, c'est comme ça qu'on va réussir à analyser les virus, c'est comme ça que notre monde tourne. Quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est infini, c'est-à-dire qu'il est infini, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, l'infini, pourquoi on l'appelle l'infini ? On aurait pu l'appeler un autre nom. Pourquoi on l'appelle l'infini ? C'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu ne rentre pas, lui, dans ce système de cause à effet. Notre monde, lui, est dans ce système de cause à effet. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ne rentre pas dans ce système. C'est-à-dire que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, j'ai un but, une fois que j'ai accompli ce but, alors je ne sers à plus à rien du tout. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu est infini, c'est-à-dire que jamais on dira à une date donnée, l'œuf a éclos, il a donné la poule, maintenant on n'a plus besoin de l'œuf, ça n'existera jamais. Alors, c'est même pas limité dans le temps, c'est-à-dire jamais ça peut exister. C'est pour ça qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Ensof Baruch Hu, l'infini. L'infini, ça veut dire qu'il n'a pas de finalité, il n'a pas de but. Ça ne veut pas dire qu'il a un début. Pourquoi on dit infini ? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de but, ça s'arrêtera jamais. Alors, il va expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Ilouaita madrigot, mi madriga. Donc là, encore une fois, rappelez-vous, on est en train d'essayer de poser des repères. Et d'expliquer pourquoi jamais l'humain pourra comprendre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ilouaita madrigot, mi madriga, le madriga, beder, hila, vealou, lo, aya, aolamazen, nivra, klal, kemoshe, uata, viprinatboul, vitachit, maratarakia. Il dit comme ça. Il dit, lorsqu'on analyse, on voit que notre monde, tel qu'il a été créé, c'est un monde qui est limité. Tout est limité dans notre monde. Alors, il va expliquer, pas seulement notre monde, le monde matériel. Tout ce qui existe, par définition, c'est limité. Par exemple. Il donne l'exemple, il dit, « Mais arrête la rakia ma'alar tafkouf shana. » De la terre jusqu'au ciel, c'est écrit dans la Gemara, qu'on a le temps de marche de 500 ans. 500 ans. C'est-à-dire de la terre jusqu'au ciel, d'accord ? On a le temps de marcher de 500 ans. On va expliquer ce que ça veut dire. Vechel ben Rakia le Rakia. De même, il y a 7 cieux. Entre chaque ciel, il y a le temps de marcher 500 ans. Alors bon, bien sûr, comme on explique, les commentaires expliquent qu'il ne faut pas prendre 500 ans au sens littéral, puisque après la Gemara, c'est dans la Gemara Chagiga. Après, la Gemara a dit qu'entre les pieds d'un ange et les pieds d'un autre, il y a aussi 500 ans. Bon, il faut comprendre que c'est pas forcément au sens littéral. Mais ce qu'on veut dire, c'est que même si c'est pas limité matériellement, mais tout ce qui existe est limité. Même les anges sont limités. Même le Gan Eden est limité. Tout est limité. Bien sûr, ça va pas être les mêmes limites. Si moi je vais être limité matériellement, eux ils vont être limités spirituellement. Et c'est ça ce qui va faire la différence entre les Neshamot et le Gan Eden. Qu'une sera plus limitée que l'autre. Donc il y aura des grandes Neshamot, des petites Neshamot. Mais tout le monde sera limité. Même la Neshamot Moshe Rabbeinu est limitée. Tout le monde est limité. Personne peut prétendre être illimité. Donc c'est ça ce qu'il nous dit. C'est la fuite le Olam Haba. Même le Olam Haba avec Gan Eden et Alion, tu es dans les mots où on est. Je vais un peu vite au début parce qu'on l'a déjà fait. Va filo la mabab avec Gan Eden et Alion, même le monde futur et le Gan Eden, Mador Neshamot Tzadikim Agdolim, et où l'endroit où se trouvent les grandes Tzadikim, Ve Neshamot Atman et les Neshamot, Ve Tzrech le Malachim et même les Malachim, M Biprinat Gvul Vetachli, tout est limité. Alors quand on dit limité, ça ne veut pas dire limité, d'accord? Quand on dit limité, ça va? Quand on dit limité, ça ne veut pas dire limité matériellement. Mais ça veut dire spirituellement. Comment on peut être limité spirituellement? Qui est-ce que vous la sagatan behor en sov baruchu ameir alem beit lapshut rabad? Que comment on peut être limité? Parce que on sait très bien que quand on est dans le monde futur, qu'est-ce qui fait la différence entre un tzadik et un autre? On a dit c'est la compréhension. Combien ils vont être capables de comprendre? C'est ce qui fera la différence aussi entre nous, entre chacun parmi nous quand Mashiach reviendra. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est la compréhension. Et là, chacun aura ses limites. Ça veut dire qu'il y en a qui comprendront plus, il y en a qui comprendront moins. Donc, on est limité. On est d'accord? Velachen, t'es avec nous? Je fais un peu vite, si tu comprends pas, tu me dis. Velachen. Yesh kvul la natan sheneni mizi vashrinam betangim beor hashem. C'est pour ça qu'il y a une limite. Il y a une limite. Jusqu'à combien? Même les tzadikim peuvent profiter du rayonnement de la shrina, puisque c'est ce qu'ils font en Gan Eden. Ils profitent du rayonnement de la shrina. La chaise longue. D'accord? Il y a une limite. Qui en yicholim le kabel anav et anug uprilat et sof amash. Jamais, à aucun moment, ils ne pourront recevoir un plaisir du niveau vraiment de l'infini. C'est-à-dire, jamais ils seront capables de percevoir l'infini. C'est impossible. Pourquoi? Chez Loïd Batlou, il souhaitait vers Zorolim Koran. Parce que si ce serait le cas, qu'à un certain moment, ils auraient pu percevoir l'infini, obligatoirement, ils auraient quitté leur existence et ils seraient retournés à leur source. C'est comme le feu. On amène souvent l'exemple du feu. D'accord? Le feu. Lorsqu'il va vouloir s'approcher de sa source, alors pourquoi le feu a envie de toujours monter vers le haut? Parce qu'on dit que le feu, je sais pas comment l'explique la science aujourd'hui, mais Maïmonide dit qu'en dessous de la lune, il y a comme une sorte d'aimant. D'accord? Je sais pas comment dire en ce temps-là. Je sais pas comment l'explique la science aujourd'hui, mais il y a comme une sorte, je crois que dans la science aujourd'hui, on explique avec les vapeurs. Les vapeurs chaudes, les vapeurs froides, mais bon, c'est pas une contradiction. Qu'il y a la source du feu, enfin, il y a comme une sorte d'aimant. De la même manière qu'il y a l'attraction terrestre qui attire tous les objets matériels. De la même manière, il y a comme une sorte d'aimant qui attire le feu vers le haut. Et qu'est-ce qu'il nous explique Maïmonide? Il dit que plus le feu va monter vers le haut, et plus il va se perdre. Il va plus exister. Donc de la même manière, les Neshamot à un certain moment auraient voulu vraiment comprendre qu'est-ce qui est Akadosh Baruch Hu, ils seraient tout de suite annulés, c'est impossible. Pourquoi? Parce que qui dit que je comprends, dit que j'ai une existence. Et qui dit que j'ai une existence, dit que jamais une personne qui existe et qui est définie ne pourra comprendre ce qui est infini. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, pourquoi on a expliqué tout ça, hein? On a expliqué tout ça, hein, pour comprendre. Bon, on va le lire après dans les mots, mais je vais expliquer un peu dans l'oral. On a expliqué tout ça pour comprendre qu'on peut pas dire que Kadosh Baruch Hu nous a créé dans un système de cause à effet. Ça veut dire qu'une fois qu'il a déjà créé le monde, là, effectivement, dans le monde va tourner dans un système de cause à effet. C'est-à-dire qu'un homme va donner naissance à un autre homme, et un arbre va donner naissance à un autre arbre, etc. Tout le monde entier, c'est un système de cause à effet. C'est un grand système de cause à effet. C'est des effets qui n'arrêtent pas de naître de cause. Mais la question qu'on se quitte, c'est une grande question qui a été posée par les kabbalistes, est-ce qu'on peut dire que Kadosh Baruch Hu nous a créé lui aussi dans un système de cause à effet? Ça voudrait dire que si on va analyser l'effet de la cause, ben à un certain moment on arrivera à Dieu. C'est une grande question vous comprenez la
Rambam.
D'accord? Alors non, Rambam, oui, bon, Rambam il dit pas exactement. C'est ce que dit Aristote, exactement. D'accord? C'est ce que Rambam il le fait comprendre. C'est ce que dit Aristote, d'accord? Mais bon, pour nous en tout cas ce qui nous concerne, c'est ce que dit Rabbi Moshe Cordovero, qui n'a pas connu Aristote. D'accord ? Rabbi Moshe Cordovero, qui explique ça dans des termes kabbalistiques, lui, Rabbi Moshe Cordovero, il pense, il dit que même Akadosh Baruch Hu nous a créé dans un système de cause à effet. Donc, on va monter. Alors, bien sûr qu'on arrivera...
Nous, c'est qui ? C'est les Neshamot ou c'est nous les hommes ?
Tout le système du monde. Alors après, bien sûr, on a des sans fin de cause et d'effet. Sans fin. Mais c'est le système de cause à effet. Ça veut dire que si on remonte, bah finalement, on arrivera à Kadosh Baruch Hu. On n'y arrivera jamais. Moshe Rabbeinu n'y est pas arrivé, donc on n'y arrivera pas. Mais
il
peut pas, parce qu'on peut pas. Parce que dès que tu... À un certain moment, tu sens que si tu vas monter plus haut, tu vas perdre ton existence. Parce que par des... Alors ça, c'est le... On a dit, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Moshe Cordovero, donc tout un groupe de kabbalistes qui pensent comme ça. Qui pensent que le monde a été créé dans un système de cause à effet. Ensuite est venu le Harizal, qu'est-ce qu'on a expliqué ? Aujourd'hui, la majorité des penseurs juifs suivent le Harizal, donc vous avez tout, le Maharal de Prague, tous les penseurs juifs pensent comme ça aujourd'hui, en tout cas la grande majorité, pardon, et qui disent que non, que l'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé dans un système de cause à effet. Que l'Akadosh Baruch Hu a dû faire une rupture. Il a fait une rupture, pour quand il a créé le monde, c'est-à-dire qu'il y avait l'Akadosh Baruch Hu, il a fait une rupture, c'est ce qu'on va appeler le Timtsum par la suite. Et après, cette rupture-là, et le monde a été créé, et là, une fois que le monde a été créé, alors à partir de ce point A, d'accord, là, il y a eu point A, point B, point C, là, ça va aller sans fin. Donc on ne peut pas remonter à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Alors, le Harizal n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Là, la Mora Zaken va expliquer pourquoi. Et avec ça, rappelez-vous, on est en train d'essayer ici de poser des repères. On va expliquer pourquoi on ne peut pas se comparer à Dieu. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu, c'est l'infini en quantité, que bon, moi, je suis un par rapport à l'infini. C'est même pas un par rapport à l'infini, on n'est rien du tout. Pourquoi ? Admor Hazaken va expliquer ça ici. D'accord ? Il va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, veiné. Pratiyut Tatimtsumim, tiens, je t'en ai la page. 134. Voilà. Je suis à la cinquième ligne. Veiné. Pratiyut Tatimtsumim, Echuma Elkan Mekambiwan. Si tu veux comprendre le détail du Timtsum, c'est-à-dire le détail de la rupture, d'accord, on a expliqué qu'il y a eu une rupture. Ça, c'est l'avis du Harizal, qui dit qu'il y a eu une rupture. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu a fait une rupture, c'est au niveau de Or en Sof, et là, après, il y a eu tout un système de cause à effet. Alors, Admor Hazaken te dit, le détail, comment s'est passée la rupture, c'est pas notre but ici. Pourquoi c'est pas notre but ? Il va l'expliquer dans d'autres endroits, il va l'expliquer dans les Guéret à Kodesh par la suite. Pourquoi c'est pas notre but ? Parce que la première partie du Tanya, on va nous amener principalement des sujets qui vont nous concerner dans Avodat Hashem, dans le service divin. Donc là, maintenant, on essaie de comprendre. La seule chose qu'on essaie de comprendre ici, c'est qu'est-ce qu'on est par rapport à Kadosh Baruch Hu pour nous aider à mieux comprendre qu'on doit quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Donc on va pas rentrer dans les détails de la rupture. C'est pas notre but ici. On va pas expliquer comment s'est passée cette rupture. Parce qu'il y a des détails. D'accord? Est-ce que c'est une rupture qui n'avait plus rien à voir avec avant? Ou est-ce que ça ressemble à une rupture? Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va pas rentrer dedans. Ar derer klal. Mais, si on analyse globalement, qu'est-ce que c'est une rupture? Enhem prinat Esther ve'elem amshachat ha'or v'achayut shelo ya'ir v'yumshach et tartoni prinat gilui litlabesh ba'em ou lashpia ba'em ou lachayotam liot yeshmaï. Mais de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire une rupture? Une rupture, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu va donner la possibilité de créer le système yeshmaïn. D'accord? Yeshmaïn, ça veut dire ex nihilo. Ça veut dire une existence du néant. Alors, on avait expliqué la semaine dernière, c'est ce que le Gemara Zaken avait expliqué longuement, que, tu te rappelles Lionel, d'accord, on avait expliqué que le système de cause à effet, l'effet doit toujours avoir au moins une partie des caractéristiques communes avec la cause. Par exemple, un homme ne peut pas donner naissance à un animal. Un œuf ne peut pas donner naissance à un homme. Pourquoi ? Parce que l'effet doit avoir les mêmes caractéristiques que la cause. C'est comme ça, c'est le système que Kadosh Baruch Hu a fait. Et avec ça, l'Admor Hazaken avait expliqué que puisque Kadosh Baruch Hu est infini, si tu me dis que, ça c'est la vie du Harizal, si tu me dis que Kadosh Baruch Hu nous a créé dans un système de cause à effet, donc obligatoirement, nous aussi on aurait dû être infini. Pourquoi ? Et c'est là qu'il a commencé à rentrer dans l'explication que l'infini et le fini sont deux catégories complètement différentes qui ne peuvent pas se marier l'une avec l'autre. Ça veut dire que jamais de l'infini ne pourra donner de naissance à du fini. Alors on avait donné un exemple, d'accord ? Je vais vous lire d'abord à l'oral, c'est ce qu'on a lu la semaine dernière, juste pour se remettre dans le bain. On avait donné un exemple, donc je vais lire à l'oral, après on va le lire dans les mots. On avait donné un exemple, on avait dit si on compare 1 à 1 million. Est-ce que, d'accord? Est-ce que 1 a une valeur par rapport à 1 million?
Oui.
Oui. 1 a une valeur. Peut-être une valeur infime. D'accord? C'est quelqu'un qui a 1 million d'euros, tu vas lui parler d'un euro. C'est peut-être pas très important pour lui. C'est peut-être pas du tout important pour lui. Mais 1 million est formé, d'accord, de 1 million de fois 1 euro. D'accord? 1 million, c'est, donc 1 a une valeur par rapport à 1 million. Très bien. Maintenant, si on va comparer 1 million par rapport à l'infini, est-ce qu'il a une valeur? Est-ce que 1 million, c'est une valeur par rapport à l'infini? En mathématiques. D'accord? Par rapport à l'infini, est-ce que 1 million, c'est une valeur? Je parle de l'infini, ça veut dire que ça s'arrêtera jamais. Est-ce que 1 million a une valeur? Non. 1 million n'a aucune valeur. Pourquoi il n'a aucune valeur? Puisque l'infini, ça veut dire que ton million, c'est comme si il n'existe pas, puisque je pourrais toujours aller beaucoup plus loin, plus loin, plus loin, sans fin. Est-ce que 1 a une valeur par rapport à l'infini? On rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière? Est-ce que 1 a une valeur par rapport à l'infini? Non plus.
Maintenant, entre 0 et 1, tu as autant de chiffres entre.
Très bien.
0 et l'infini.
Ça veut dire entre 1, ça veut dire comme ça. 1 et l'infini, 1 ne vaut rien par rapport à l'infini. 1 million par rapport à l'infini, 1 million ne vaut rien aussi par rapport à l'infini. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'on explique en fin de semaine, ils m'ont dit qu'on explique ça en mathématiques aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre 1 et 1 million par rapport à l'infini? Est-ce que devant l'infini, 1 million vaut plus que 1? Hein?
Oui.
Non. La réponse est non.
1 million est plus que 1.
Quoi? Eh ben non. C'est ça le
par rapport à l'infini.
D'accord. Par rapport à l'infini.
C'est du 0.
Attention. Comment 0 plus, c'est ça? 0 plus. Ça n'a aucune valeur. Ça vaut rien.
0 plus, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, c'est 0.
Pourquoi?
Ça s'approche de zéro du côté.
Alors justement,
sans valeur, jamais zéro.
C'est le système qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que par définition, même si tu as 1 million, on va expliquer, même si tu as 1 million, d'accord, parce que j'ai vu la semaine dernière, pas tout le monde a compris. Même si tu as 1 million, il y a un repère, c'est défini. Alors que l'infini, par définition, ça ne pourra jamais être défini. On est bien d'accord? Ça veut dire que 1 million par rapport à l'infini, est-ce que ça vaut quelque chose?
Non.
Ça vaut rien.
Non, mais on parlait de 1 par rapport à 1 million.
Attends. 1 par rapport à 1 million, ça vaut quelque chose.
D'accord.
Très bien.
C'est de ça dont on parlait,
non? Non, j'ai posé une autre question. J'ai dit 1 million par rapport à l'infini, est-ce que ça vaut quelque chose? Non. 1 par rapport à l'infini, est-ce que ça vaut quelque chose? Non. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que face à l'infini, 1 million vaut plus que 1? Oui ou non? Non, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Tu aurais pu avoir 10 millions, 100 millions, face à l'infini, ça vaut rien. Très bien. Prends, on a expliqué ça. On a expliqué ça pour nous montrer que ce qui est fini et ce qui est défini, c'est deux mondes complètement différents. Et que jamais quelque chose d'infini pourra donner naissance à quelque chose de fini. C'est-à-dire, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est 1 milliard de milliards de milliards et que nous on est 1. Non. Parce que ce qu'on a expliqué, 1 milliard devant l'infini et 1 devant l'infini, c'est la même chose. Ça veut dire que l'infini, c'est une autre dimension. Donc Akadosh Baruch Hu qui est infini, ne peut pas créer du fini, donc du limité, quelque chose qui est limité, dans un système de cause à effet. Jamais. Ça sera impossible. Pourquoi? Puisque c'est deux mondes complètement différents, c'est deux dimensions complètement différentes. Jamais de l'infini ne peut donner naissance à quelque chose qui est fini. Parce que par définition, l'infini, face à l'infini, 1 milliard ne vaut rien et 1 ne vaut rien. Pourquoi on explique ça? Pour expliquer ce que l'Arizal a expliqué longuement. Et que c'est un des rares points sur lequel l'Arizal est en marloquet sur son maître, le Ramak. On expliquait la semaine dernière. L'Arizal, il dit qu'il n'est pas d'accord avec son maître. Lui, il pense que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créé dans un système de cause à effet. Il y a eu une rupture, il y a eu le Tzimtzoum. Et en général, on dit aujourd'hui, les penseurs juifs, en Chassidut par exemple, on explique, on dit que le Ramak ne connaissait pas le secret du Tzimtzoum. Rabbi Moshe Cordovero, avec toutes les grandes qualités qu'il avait, et toute la force qu'il avait, qu'il a conceptualisé la Kabbalah, mais le Tzimtzoum, il ne connaissait pas. Maïmonide non plus, il ne connaissait pas. À cette époque-là, on ne connaissait pas encore.
Problème, en fait. Parce que cette cassure, qui c'est qui l'a bien voulu, c'est Dieu.
Très bien. Non, c'est sûr, ça, il n'y a pas de problème.
Mais dans cette cassure qui est de nature à être, de cause à effet à nous donner nous.
Nous, ce qu'on essaye de comprendre ici, rappelez-vous, on est en train d'essayer de mettre des repères. On dit Dieu est en haut. Voilà, Dieu est en haut. D'accord? Quand on dit Dieu est en haut, qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine, ok, Dieu est spirituel, mais nous, on s'imagine que, voilà, moi j'ai un, lui il a 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. On te dit pas du tout. Parce que devant un Kadosh Baruch Hu, moi devant un Kadosh Baruch Hu, et le Gan Eden face à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Très bien. Alors, la seule chose qu'on essaie de comprendre ici, c'est la méthode que Kadosh Baruch Hu a employée pour créer le monde. On sait qu'il a créé le monde. Mais le Ramak, il disait, Kadosh Baruch Hu a employé la méthode cause à effet.
Mais cette cassure.
Oui.
Cette cassure, elle n'a aucun point commun avec Dieu. C'est la même chose que Dieu vis-à-vis de la création.
Cette cassure.
C'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a eu un moment où il y a eu une cassure, et cette cassure-là, dans une relation de cause à effet, il y a eu la création du monde.
Oui.
Cette cassure-là, donc, elle est comparable, elle a des points communs avec la création, mais pas avec Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui a bien, qui a créé cette cassure.
Oui.
Donc, bonne question. On a juste avancé le problème, mais on l'a pas réglé.
C'est non, c'est-à-dire, ta question, la question que tu es en train de poser, tu es en train de dire, est-ce que, une fois, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, enfin, on va tourner la question un peu dans notre sens. Est-ce que quand tu me dis qu'il y a une cassure, est-ce que ça veut dire que maintenant le monde tourne tout seul et qu'il n'est plus lié à Dieu? C'est un peu ça.
Est-ce que c'est
toujours la cause à effet.
On dit pas qu'Akadosh, attention, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. On dit pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas créé, Akadosh Baruch Hu nous a créé. Seulement on est en train de dire que dans le système de notre monde, il ne peut pas avoir de cassure. Par définition, si je suis né de quelqu'un, bah, ça veut dire que c'est un système de cause à effet. Il n'y a pas d'autre méthode de création qui existe, ça n'existe pas. C'est obligatoirement cause à effet. Tout dans le monde tourne avec ça. Même le, comment on appelle ça, la météo, tout tourne avec ça. Tout ce qu'on peut s'imaginer dans le monde, voilà, une bibliothèque, du verre, du fer, tout ce qu'on peut s'imaginer, la lumière, tout ce qui est autour de nous tourne dans le système de cause à effet. Il est évident que Kadosh Baruch Hu nous a créé. Il est évident que nous, on vient d'Akadosh Baruch Hu. La question qu'on est en train de se poser ici, c'est est-ce qu'il l'a créé dans une méthode de cause à effet? Ça veut dire que, est-ce que, entre nous et Dieu, il y a un rapport? Tu comprends la question? Ouais. La réponse est non. Entre nous, ça veut dire que, entre nous et Dieu, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de lien, il y a une rupture. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas créé. Là, on est en train de parler simplement de la méthode qu'il a utilisée pour créer.
Alors, quelle méthode il a utilisée pour créer la cassure?
Mais c'est ça, Yehiyahu.
Alors, ça, il a expliqué à Morozakan. Il dit que ça, c'est pas, oui. C'est une des explications, oui. Morozakan, il dit ici que, c'est pas le, ici, on va pas rentrer dans les détails de la rupture.
Non, lui dit,
c'est pour ça qu'il a dit.
Crée le ciel, crée la lumière, et quelqu'un d'autre crée la lumière.
Non, et la lumière fut.
Oui, mais qui la crée? Pas lui.
La lumière fut, ça veut dire c'est ça. Ça veut dire que, c'est ça le système. Regardez, c'est comme en français on dit ex nihilo. Ça veut dire quoi ex nihilo? C'est-à-dire une existence qui est venue du néant. Mais le néant, c'est qui? C'est qui le néant? Hein? C'est Dieu?
Si on veut.
Ah oui. Même en hébreu, on dit yesh miaïn. Yesh, ça veut dire une existence, miaïn du néant. Le néant, c'est qui? C'est Dieu.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Dieu, c'est pas le néant?
Non, mais le néant, bien sûr.
Sans cause à effet.
D'accord? Ça veut dire que nous, dans le système de notre monde, on est constamment yesh-miyesh. Yesh-miyesh, c'est une existence qui va être créée d'une autre existence. On peut pas venir de nulle part. On vient de quelque part. Mm-hmm. Toujours. Toute chose qui est dans le monde ici vient de quelque part. Alors après, des fois, on n'est pas capable, mais normalement, il y a une traçabilité. On est capable de voir d'où ça vient. Tout vient de quelque part. Yesh-miyesh. Pourquoi on appelle ça yesh-miyahin par rapport à Kadosh Baruch Hu? Pour dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça, c'est une grande notion du Harizal, il dit, Yesh Miaïn, ça veut dire que notre existence vient de nulle part. Mais vous savez quoi, nulle part? Dieu, c'est nulle part. Il vient de nulle part, c'est-à-dire qu'il vient d'une rupture. Ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu a fait une rupture, et après cette rupture-là, donc on va arriver à ta question, Lionel, eh ben, on a un vide. Et de ce vide-là, on va se créer. D'accord? C'est ce qu'ils disent, les goïms, avec le... Donc c'est pas tellement faux, ce qu'ils disent avec leur théorie de Big Bang, etc. Bon. Après, il y a la manière, quoi, ce qu'ils en ont fait avec. Mais c'est, le Harizal explique comme ça. Le Harizal dit que Kadosh Baruch Hu a fait une rupture. Et après cette rupture, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est créé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Bon, sauf que nous, on n'est pas d'accord avec toute la théorie. Nous, on dit que ça a été créé en 6 jours. Ça change pas. Parce que Dieu, c'est écrit que Dieu a créé un monde Dieu. Ça, c'est des détails après. Donc, où je vais arriver avec ça, hein? On va arriver avec ça que Kadosh Baruch Hu nous a pas créé dans un système. D'accord? Alors, nous a pas créé dans un système de cause à effet. Notre existence ne vient pas d'une autre existence. Dieu n'est pas une existence. Notre existence vient du néant. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, ensuite il y a un néant, une rupture. Après on verra, Bezrat Hashem, dans les chapitres de Guéret à Kodesh, cette rupture? Est-ce que c'est vraiment une rupture et comment? Ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a eu une rupture, et après la rupture, on est créé. Donc là, tout de suite, on comprend pourquoi on explique ça ici. Pour qu'on comprenne que on est en train de poser des repères, rappelez-vous. D'accord? Pour qu'on comprenne qu'à aucun moment donné, on sera capable de comprendre un Kadosh Baruch Hu. Impossible.
De remonter jusqu'à lui.
D'accord? On peut pas remonter. Pour le comprendre, faut que tu remontes jusqu'à lui. Or, tu pourras jamais remonter jusqu'à lui. Même le plus grand tzadikim, je crois, ils peuvent monter jusqu'au néant. Et là, même au néant, ils peuvent pas aller jusqu'au néant même. Parce que s'ils vont jusqu'au néant même, ben, ils perdent leur existence. Par définition, quand tu montes au néant, après, il y a un point dans lequel il n'y a plus d'existence. Et après, ce point, et ça, c'est pour ça, après, c'est un Kadosh Baruch Hu. Donc, Edmond Razakan nous dit ici, d'accord, il dit que, donc je vais lire dans les mots ce qu'on a expliqué. Avec ça, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Kadosh Baruch Hu est infini. Quand on dit qu'il est infini, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la même dimension que nous. Nous, Tout ce qu'on a, même les tzadikim, les malachim, les neshamot, c'est fini. C'est des choses qui sont limitées. C'est des choses qui ont une limite, qui ont une définition, qui ont une existence. Qui dit existence, ça veut dire qu'ils sont cloisonnés dans des caractéristiques particulières. Ils pourront jamais aller plus loin que ça, c'est pas possible. On est cloisonnés. L'infini n'est pas cloisonné. Donc jamais l'un et l'autre pourront se marier, c'est pas possible. Dans les mots. Ah bon, peut-être, je vais pas lire dans les mots parce que je vous ai expliqué à l'oral. On va prendre avec Kachamamash. On va s'arrêter la semaine dernière. Avec Kachamamash, vous prenez ces 9 lignes avant la fin. 9 ou 8 lignes avant la fin. C'est après le point. Vekacha mamash, on s'arrête ici la semaine dernière. Vekacha mamash, hi prinat aharam ou etetzo, amit la bechet, bolamot et l'unim et tartonim. De la même manière qu'on a expliqué que 1 par rapport à 1 milliard, 1 pardon, par rapport à l'infini, ne vaut pas plus qu'un milliard par rapport à l'infini, enfin ne vaut pas moins qu'un milliard par rapport à l'infini. De la même manière, aharam ou etetzo, l'émanation minime qui vient d'Akadosh Baruch Hu, amit la bechet bolamot elunim et tartonim, le peu d'émanation qu'on va avoir d'Akadosh Baruch Hu, qui va permettre de donner naissance à tous les mondes spirituels, matériels et tout ce que tu veux, la shpiabem, la chayotam, donc pour permettre de les faire vivre et de les faire naître, les gabé erer, oraganus venelam, shuprinat ensof, si on comparait nous par rapport à l'infini, par rapport à Akadosh Baruch Hu qui est infini, ou bien le Gan Eden par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est infini, est-ce que le Gan Eden vaut plus que nous? Non, il vaut pas plus que nous. Ve'eino mitlabesh mashpia bo'olamot prinat gilu ilachalotam. Que Kadosh Baruch Hu qui est infini, jamais il ne peut pas s'habiller, alors on va expliquer après le terme s'habiller, il pourra jamais s'habiller dans les mondes, il pourra jamais intégrer les mondes pour les faire vivre. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, il n'y a plus d'existence. Kadosh Baruch Hu par définition n'a pas d'existence. C'est pas une existence matérielle, ni spirituelle. On peut exister spirituellement aussi, par exemple, une pensée. Quand je pense. Ah, j'ai une pensée maintenant. C'est quoi? C'est une existence matérielle? C'est une existence spirituelle. C'est spirituel. Ça n'existe pas, ça peut pas se toucher une pensée. Mais c'est limité. On voit bien que nos pensées sont limitées. Ça veut dire que tout ce qui est créé dans ce monde, matériel ou spirituel, est limité. Et Akadosh Baruch Hu jamais ne descendra. Et là, on va expliquer une notion qu'on a expliquée plusieurs fois dans le Tanya, enfin qu'on a vu plusieurs fois dans le Tanya, mais qu'on n'a jamais eu le temps de vraiment l'expliquer. Le concept de Sovev Kol Almin et de Makif. Vous allez voir tout de suite. Et là, Makif Aleem Milmala. Akadosh Baruch Hu. Donc, rappelez-vous, on a dit qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est infini. On va l'appeler Ensof, l'infini. On est d'accord? Ce Ensof qui est infini a fait une rupture. On est toujours d'accord? Une rupture qu'on appellera par la suite le Tzimtzoum. Après ce Tzimtzoum, c'est là qu'a commencé le système de cause à effet. Donc on va démarrer par le monde de Atzilut, où il y a les grands tzadikim, après le monde de Bria, où il y a les petits tzadikim, après il y a le Neshamot, etc. On va descendre, jusqu'à qu'on arrive à notre monde. Ok, un système de cause à effet. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique ici que on va expliquer la différence qu'il y a entre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, qui est Mémalé, et l'émanation d'Akadosh Baruch Hu qui est Sovev Kol Almin. On va prendre un exemple. J'ai ici devant moi une boîte de tzedaka. Cette boîte de tzedaka, c'est du carton. D'accord? Qu'est-ce qui fait que ce carton existe? Qu'est-ce qui fait que ce carton existe? Alors, on explique. D'accord? On dit parce que dans ce carton, Akadosh Baruch Hu a mis une énergie. A mis de l'énergie. C'est une énergie qui emplit, ça veut dire une énergie qui est là et qui fait que ce carton existe. Ça s'appelle le or. C'est une lumière qu'Akadosh Baruch Hu y met, pour que cette énergie, et quand Akadosh Baruch Hu, donc on revient à ce que tu as posé, la question que tu as posée tout à l'heure, quand on lui dit par exemple, Ba'asara Mamarot Nivra Olam, on dit que le monde a été créé avec 10 paroles. C'est-à-dire quoi que le monde a été créé avec 10 paroles? On se dit qu'en Chassidut, ça veut dire que le monde est créé constamment avec 10 paroles. C'est-à-dire que dans les Asara Mamarot, dans les 10 paroles qu'il y a au début de la Parasha Bereshit, avec toutes les combinaisons qu'on peut faire dans ces 10 paroles-là, il y a l'émanation et l'énergie qu'il faut pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que quand, par exemple, ça, on n'est pas capable de le faire, mais quand, par exemple, les tzadikim vont te dire, voilà, on va prendre, en hébreu, on va dire, Even. Even, c'est une pierre. Rabbeinu Bachaya, il a expliqué ça depuis longtemps. Quand on va dire, par exemple, Even, c'est une pierre. D'accord? Mais si on analyse la combinaison de Aleph, Bet et Nun, on va être capable de comprendre la lumière, d'accord? La combinaison exacte de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui fait que la pierre existe. Et c'est ce qui fait que ça, c'est une pierre. D'accord? Et de l'autre côté, par exemple, Arié, un lion, d'accord ? Ben là, ça va s'écrire Alev, Resh, Yud, He. Ça va être des combinaisons différentes du début de la paracha de Bereshit. C'est Rabbeinu Brahi qui explique ça très longuement. Enfin, il explique pas, il explique le concept, parce qu'après, les détails, on ne peut pas les connaître. C'est les tzadikim qui les connaissent. Donc, ouais, le système des codes dans la Torah, c'est pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais il faut être un tzadik. À mon avis, il faut être un tzadik pour être capable de comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette lumière d'Akadosh, donc, c'est ce qui fait que ça, c'est une pierre, d'accord ? Ça, c'est un lion, et ça, c'est une boîte de... Ça, c'est du carton. Si on verrait en hébreu comment c'est du carton, donc du carton c'est du bois, d'accord ? C'est quoi du carton ? C'est du bois qui est mélangé à de l'eau, c'est ça ?
Du papier. Hein ? C'est la pâte à papier, ouais, super.
Donc, le papier c'est du bois.
Ouais.
Bon. Quand on analyse en hébreu le mot et, donc si on veut savoir d'où ça vient, il faut analyser le bois. Il faut voir d'où ça vient. Donc je vais analyser le mot et. Si on va analyser le mot et, aïn, sadik, avec ça on peut trouver la combinaison de l'énergie qui fait que ça existe. On peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre génération, on a plus de facilité à comprendre ce concept. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de voir ce qu'il y a derrière la matière. D'accord ? Aujourd'hui, quand on approfondit dans la matière, on est capable de voir que la matière, le produit fini qu'on voit ici, en vérité, il cache énormément de choses. C'est-à-dire qu'en vérité, on va passer par les atomes, enfin, c'est quoi le dernier niveau ? C'est l'humain, c'est ça ? Je sais pas comment on appelle ça. Bon, il y a des niveaux, d'accord ? Les quarks. Ouais. D'accord ? Donc on va passer par différents niveaux, des électrons et tout ce que vous voulez, etc. Je sais qu'à la fin on va arriver à l'atome et après on va arriver au quark. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette même boîte de tzedaka, ce même élément qui me paraît être quelque chose de dur, quelque chose qui n'a pas de vie, quelque chose qui ne bouge pas.
C'est plusieurs choses.
D'accord ?
C'est...
En vérité, quand on analyse, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Bon, nous on s'est arrêté au quark. Mais c'est une chance que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour nous montrer que derrière un même élément qui nous paraît tout simple, quand on approfondit, on va comprendre que. En vérité, on n'a pu s'arrêter qu'au quark, mais de la même manière qu'avant on s'arrêtait à l'atome, parce qu'après on arrive au quark, on pourrait aller plus loin encore. C'est très possible. On pourrait aller sans. Et le quark, en vérité, c'est quoi quand on analyse ? Le quark. Hein ? C'est quoi le quark ? Comment on définit le quark ?
J'ai aucune idée, moi.
Hein ?
Physique.
C'est quoi le quark ?
Voilà, il va nous dire.
À l'époque, on s'arrêtait à l'atome. Hein.
S'arrêtait à l'atome. Alors, je t'explique.
C'est l'électron.
Le quark, c'est. Alors, vous verrez, quand vous rentrez chez vous, vous verrez dans, je sais pas, Wikipédia où vous voulez. D'accord ? Le quark, c'est la lumière.
Exact.
C'est la lumière. Là, quand on parle de ça dans la Kabbalah, Oroth, bon, je dis pas que la Kabbalah elle parle de quark, mais le quark, c'est défini par la lumière. C'est-à-dire que là, en vérité, ça, il n'y a que des lumières. Là, c'est des lumières qui font ça. C'est énorme.
C'est l'énergie.
D'accord ? C'est l'énergie.
C'est ça. C'est pas la lumière.
Et qu'est-ce,
c'est
qui, l'énergie. Fait, et qu'est-ce qui fait que c'est dur ? Pourquoi c'est dur ? D'accord ? Pourquoi c'est dur ? Hein, si tu veux m'expliquer ? Si c'est de la lumière, c'est pas dur. Pourquoi c'est dur ? Pourquoi quand je touche ces boîtes de Zaka, pourquoi quand je touche la table, c'est dur ? Là, je touche de l'air, c'est pas dur. Là, je touche, c'est dur. Pourquoi c'est dur ?
C'est comprimé ? C'est sérieux, non ?
Alors, c'est comprimé.
Oh, je sais pas.
D'accord ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école ?
Un laser, c'est dur aussi, non ?
Qu'est-ce que vous avez appris avec les atomes ?
Qu'ils sont plus
toute la matière du monde, toute la matière du monde, on pourrait la rassembler dans
une,
d'accord, dans
une tête de,
dans la tête d'une aiguille, d'accord, dans la tête d'une épingle. Toute la matière du monde, tout.
Je vais encore écouter.
Rappelle ça ou pas, hein?
Ouais. Qui a dit ça?
C'est connu, c'est les cours de.
C'est une théorie. J'ai même entendu encore dernièrement ce que je vous disais là-dessus. On peut
c'est pas les juifs qui disent ça, c'est les goïms, hein. Toute la matière du monde, tout, les arbres, tout. Elle pourrait tenir dans une tête d'une aiguille. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'air tellement éparpillée? C'est parce que quand les atomes y tournent, d'accord, avec le mouvement, d'accord, avec le mouvement, c'est le mouvement qui fait que c'est le mouvement qui va donner les différences de que ça va paraître plus dur que ça. Plus ça va tourner vite et plus ça va paraître dur. C'est ce qui fait la différence entre un matériau et un autre. Et donc c'est pour ça que, bon, après, il y a tout le concept de la vitesse de la lumière, etc., que quand on dépasse la vitesse, on peut pas la dépasser, mais si on dépasserait la vitesse de la lumière, on dépasserait le temps.
Ça fait qu'il y a un prérequis hein, pour faire pour Dostania.
Hein ?
Ça veut dire qu'il y a un prérequis Bac plus 10 ou moins.
Non, c'est pour... Bon, si vous voulez, on va passer directement au Tania. Alors, pourquoi on explique ça ici ? On revient à notre sujet.
C'est très bien les parallèles, c'est très bien.
Hein ?
C'est très bien les parallèles.
Pourquoi on explique tout ça ? On explique tout ça pour expliquer que... C'est qu'on va expliquer ici la différence entre la lumière qui est même allée... Voilà, c'est pour ça qu'on parle de lumière, d'énergie. Allez, d'énergie si vous voulez. L'énergie qui est même allée que l'almine et sauveuse que l'almine. On va prendre l'exemple, voilà, j'ai pris l'exemple de Hetz, du bois, qui m'a donné naissance, donc je reviens. Hein, bon.
Attention à ce que je mange ce soir.
On referme la parenthèse. Tu vas manger de la lumière.
Attention à ce que je mange.
Mais bon, il y a lumière et lumière, hein, parce qu'il n'y a pas photo. Donc on va prendre ma boîte de carton ici. Ma boîte de carton ici, on a dit que le carton, c'est vient du bois. En tout cas, une des composantes du carton, c'est le bois. Donc le bois, c'est Etz. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait vivre ce carton? D'accord? Qu'est-ce qui fait vivre ce carton? C'est la combinaison d'Akadosh Baruch Hu, une combinaison donc, qu'on va retrouver, enfin, qu'on pourrait retrouver dans la paracha des Réchit, Aïn Tzadik, en sautant des lettres, etc. Bon, après, c'est pas nos affaires. Aïn Tzadik, c'est cette combinaison qui donne de l'énergie. Et c'est ce qui fait que ce bois va vivre. C'est pour ça que si un jour Akadosh Baruch Hu décide d'arrêter de faire vivre le monde, il n'a pas besoin de détruire le monde. Hein, imaginez-vous un jour Akadosh Baruch Hu décide, je veux plus de monde. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous?
Il éteint la
lumière. Hein? C'est faire Akadosh Baruch Hu.
Il arrête les super.
D'accord? Il arrête, c'est comme la lumière, c'est pour ça qu'on appelle l'exemple de la lumière. C'est très bon exemple, c'est un très bon parler avec la lumière. Si j'ai de la lumière ici, je veux qu'elle s'arrête. Je vais pas tirer une balle sur la lampe, je vais arrêter l'énergie. Et puis ça va arrêter l'énergie, bah, automatiquement il n'y aura plus de lumière. C'est fini, il n'y a plus. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une énergie constante de Akadosh Baruch Hu qui fait vivre tout ce qui est autour de nous. Tout ce qui est autour de nous, il y a une énergie constante d'Akadosh Baruch Hu qui est là en train de le faire vivre. Ça, la Gemara le dit, d'accord? La Gemara, elle le dit aussi, par exemple, elle dit qu'il n'y a pas une plante. La Gemara dit sur les plantes, et le Baal Shem Tov dit que c'est pas seulement sur les plantes, c'est même sur ce qui est inerte, même sur le minéral. La Gemara dit qu'il n'y a pas une plante, qu'il n'y a pas un malhar qui est en train de lui dire « vas-y, pousse ». Ça veut dire quoi? C'est l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, qui s'occupe de chaque chose en détail. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui tombe tout seul. Sauf que cette énergie-là qui s'occupe donc de mon morceau de carton et de tout ce qui est autour de moi, ça c'est l'énergie qui est mémalée. C'est l'énergie qui va intégrer la matière. Ça veut dire, c'est ce qui fait par exemple que à certains moments de notre vie, on va sentir la spiritualité, qu'est-ce qu'on sent quand on sent la spiritualité? Des fois on se sent emporté comme ça. Voilà, on a dit, quand on sort d'Égypte, c'est quoi sortir d'Égypte? C'est à un certain moment, tu vas faire le Shabbat, des fois ça va arriver, un Shabbat sur mille, que tu vas sentir la divinité du Shabbat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que j'ai atteint Dieu, je suis à l'infini? Pas du tout. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai réussi à sentir, pour quelques instants, ce que le Tzadik sort constamment, j'ai réussi à sentir pour quelques instants, la lumière de Mémalé, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui intègre le monde. C'est comme, voilà, d'habitude je vois du carton, et ce Shabbat-là, j'ai réussi à mettre des lunettes et voir que derrière le carton, il y a des quarks. J'ai vu les quarks. Mais ça s'appelle la lumière Mémalé. Pourquoi c'est faire la lumière Mémalé? Parce que c'est, encore une fois, rappelez-vous, le système de cause à effet. Hein, ça, on comprend très très bien le système de cause à effet. On comprend très bien le système de cause à effet, c'est que les quarks ont donné naissance aux atomes, qui ont donné naissance aux électrons, c'est ça? Enfin, j'ai pas appris ça à l'école, mais bon, j'essaye de comprendre. C'est quoi l'ordre? Les quarks, l'atome, l'électron, après c'est quoi? Le proton, c'est quand même...
Le proton, c'est un type de... C'est positif.
Alors, c'est quoi, alors?
L'électron, après, tu as le...
Dans l'atome, tu as le neutron, l'électron.
Tu as l'atome qui est au centre.
Oui.
Et les électrons et les protons qui... Les électrons qui tournent...
Et après, l'électron, il y a quoi? Enfin, pour descendre vers nous, quoi, pour arriver à ce morceau de carton. Qu'est-ce qu'il y a?
Donc après, tu as une...
Encore une fois, j'analyse la cause à effet, là. Hein. Donc, le quark, ça a été la cause de l'atome. L'atome a été la cause de l'électron. L'électron a été la cause de...
Bon. L'électron et l'atome, ça te donne la cellule.
La cellule, très bien. Donc après, on va avancer. On va arriver à mon morceau de carton. D'accord? Ça, c'est cause à effet. Là, on est en plein dedans. Alors, nous, on s'arrêtait au quark, mais... Spirituellement, pour aller plus loin. D'accord? Ça, c'est un système de cause à effet. Et ça, c'est ce qu'on appelle la lumière qui est mémalée comme la lumière. Ça veut dire qu'on peut dire que le quark, ça a intégré la matière. Il est dedans. Il est là. C'est lui qui fait vivre cette matière. Sans lui, la matière ne serait pas là. Ça, c'est mémalée comme la lumière. Ein Sof, l'infini, quand on dit que, donc pour répondre à ta question tout à l'heure, Lionel, est-ce que ça veut dire qu'il y a une rupture? Est-ce que ça veut dire que l'infini n'a rien à voir avec nous? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est autonome? Pas du tout. L'infini, il nous fait vivre lui aussi. Il nous fait vivre aussi, mais attention, il va être dans un mode sovev. C'est quoi sovev? Alors, on va expliquer, c'est une grande notion de Kabbalah. Sovev ou bien makif, c'est deux termes en hébreu qui veut dire à peu près la même chose. Sovev, ça veut dire en hébreu, comme sevivon. Sevivon, c'est quoi sevivon? Une toupie, donc c'est-à-dire sovev, ça veut dire ça.
Rotation.
Ça tourne, rotation. Mmh. Et makif, ça veut dire aussi entouré. Là, on va plus parler d'une énergie qui va intégrer la matière, on va parler d'une énergie qui entoure la matière. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette histoire? Je vais expliquer. Venikra sovev kol almin. C'est-à-dire que là, on va expliquer, ça c'est une des grandes bases du Zohar, qu'il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie qui va intégrer la matière, Ça, c'est l'énergie qui est même à l'école Almine. Donc voilà, nous, on s'arrêtait au quark, mais en vérité, il y a, attends, on va monter, on va arriver à l'énergie qui vient de, des 10 lettres de Asara Mamarot, qui vient de Parasha Bereshit. D'accord? Mais ça, c'est l'énergie qui intègre le monde. C'est l'énergie qui est venue après la rupture. Avant la, mais même l'énergie, même ce qu'il y a avant la rupture, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, avant que la rupture se passe, il a un impact aussi sur le monde, mais c'est un impact qui est sevev, c'est un impact qui va entourer le monde, qui ne va pas intégrer le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entourer? On va expliquer. Enfin, on va essayer d'expliquer en tout cas. Venik donc et la makifalem ilmala, venikras sevev kolalmin. Il va les entourer d'en haut, et on va appeler ça sevev kolalmin. Dans le Zohar, on appelle ça sevev kolalmin. Vous le retrouverez dans le texte du Patach Eliyahu. Sevev kolalmin, Patach Eliyahu, c'est une partie du Zohar, qu'il y en a qui disent le matin avant la tefila. Vous le trouverez dans le Patach Eliyahu. Il disait pas Sovev Kolalmin, Malek Kolalmin, etc. Donc on l'appelle Sovev Kolalmin, Akadosh Baruch Hu qui entoure le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire entourer le monde? Alors Moraz Zakai dit attention, il ne faut pas faire d'erreur. Quand on dit qu'il entoure, ça veut dire quoi il entoure? Comment vous comprenez entourer?
L'enveloppe, là c'est marqué. C'est...
Hein, enveloppé, allez disons enveloppé. Alors ne regardez pas la suite. Comment vous imaginez enveloppé? Qu'est-ce que ça veut dire enveloppé? C'est enveloppé physiquement, physiquement, il nous enveloppe physiquement. Mais tu mets juste, on vient de dire qu'il n'est pas fini, il n'a pas de limite à Kadosh Baruch Hu. Que le Or En Sof, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, n'a aucune définition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous entoure? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est enfant, on dit Dieu est en haut? C'est-à-dire quoi Dieu est en haut? C'est-à-dire que je vais monter, je vais trouver Dieu? Moi je ne serais pas capable, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu est en haut? Ne croyez pas en bas.
Sans que c'est fini en bas.
Hein?
On sent pas que c'est fini.
Donc en vérité.
C'est borné, là, j'ai pas borné.
Alors, mais où il est Dieu alors? Hein?
Partout.
Il est partout. Apprends, Dieu est en haut.
Qu'est-ce que c'est borné?
Hein?
Moi, je dis pas ça.
Moi.
On dit pas non plus. On dit...
Pourquoi par définition, quand on est enfant, on dit Dieu est en haut?
Quand on est enfant.
Parce qu'on dit que c'est élevé, c'est dans le
sens. Voilà. C'est pas seulement.
On dit le
Shabbat Shemaim. Bon, c'est pas que les enfants. D'accord.
F et Shemaim.
Oui, d'accord. Mais on dit le Kenu Shabbat Shemaim. On dit le Dieu qui est dans le ciel. On dit c'est le.
Dans le sens où qui marie le feu et l'eau.
Oui, bon.
Il est dans un endroit où l'eau.
Dieu qui est dans le ciel.
Non, il est dans un endroit où l'eau et le feu qui sont
dans
le ciel.
Là, on a des notions de midrash, mais bon, le pshat, c'est le Kenu Shabbat Shemaim, c'est un Dieu qui est dans le ciel. C'est écrit comme ça, je veux dire. Même en
yiddish.
En yiddish, par exemple, pour dire Dieu, d'accord, on dit Eubershter, celui qui est en haut. Même en hébreu. On dit Akadosh Baruch Hu, Ayoshev Bamromim, celui qui est assis dans les cieux. Le trône céleste, les cieux. D'où vient ce terme, les cieux? C'est-à-dire quoi, les cieux? Dieu, il est au ciel. Hein? Elle va expliquer ici. Ça veut dire, bon, vous avez bien compris, le problème qu'on a ici, c'est que tu me dis qu'il y a une énergie d'Akadosh Baruch Hu qui va intégrer le monde et une autre qui va entourer le monde. Ah, c'est celle-là qui nous intéresse. Celui qui, elle va entourer, donc il est en haut alors. Elle dit attention. Ve'en apirush, sovev ou makif milmala viprinat makom chasveshalom. Il ne faut pas comprendre quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand le Zohar nous dit que Dieu entoure le monde, il ne faut pas comprendre que Dieu entoure le monde dans une définition d'endroit qui va nous entourer avec dans une définition géographique. Trace de Shalom. D'accord? Parce que quand on ouvre certains livres de Kabbalah, on va voir, on va vous donner des dessins, d'accord? On va dire, voilà, nous on est là et Dieu il nous entoure. On va vous montrer un dessin avec un tracé, avec un compas, en effet. Allez, attention. Ne crois pas que Kadosh Baruch Hu nous entoure géographiquement, physiquement. De dire que Kadosh Baruch Hu nous entoure géographiquement, ça n'existe pas. Pourquoi?
C'est-à-dire qu'on n'est pas inclus.
Alors, pourquoi? Écoute bien pourquoi. Pourquoi on ne peut pas dire ça? En vérité, on l'a déjà compris avant. Ki lo shayar klal prinat makom beruchaniyut. Puisque la notion d'endroit, la notion de place, la notion géographique, n'existe pas spirituellement. Je ne peux pas dire j'ai une pensée ici, j'ai une pensée là-bas. Une pensée, il n'y a pas de notion géographique sur une
réalité.
Pensée. Donc déjà, sur une pensée, il n'y a pas de notion géographique. Je ne peux pas dire j'ai une pensée qui est à droite de ma tête, une pensée qui est à gauche de ma tête. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de notion géographique, ça n'existe pas. Donc, à plus forte raison dans la divinité, c'est déjà dans le spirituel qui est une création d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qui est une création limitée. On est bien d'accord? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit que les malachim, etc., c'est limité. Si déjà dans le spirituel, il n'y a pas de notion d'endroit, il n'y a pas de notion géographique, à plus forte raison qu'avant la rupture, il n'y avait pas non plus de notion géographique. Donc quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous entoure, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il nous entoure. Mais même spirituellement, même avant d'arriver à ce niveau-là, avant la rupture, même après la rupture, le Gan Eden ne nous entoure pas. Il ne peut pas nous entourer, parce que spirituellement, la notion d'endroit n'existe pas. Donc Dieu ne peut pas être en haut. Dieu est
partout.
Partout. Hachem est ici, Hachem est là. Hachem est partout à la fois. Comme ça, on apprenait à l'école. Hachem est ici, Hachem est là. Alors pourquoi le Zohar il dit qu'il nous entoure? Pourquoi le Zohar il dit, ah, je vais t'expliquer. Par exemple, le Zohar il te dit, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie qui va intégrer le monde, et l'énergie qui va entourer le monde. Quand on va étudier la Torah, c'est lié à l'énergie qui intègre le monde, et quand on va faire les mitzvot, c'est lié à l'énergie qui entoure le monde. Mais d'ailleurs, quoi entourer le monde?
C'est marrant parce que ça me fait penser à une expérience que les Israéliens ont fait entre quelqu'un qui mettait les tefilines. Et il le voyait sous le spectre d'une lumière.
Ouais. Qu'est-ce qu'il voyait?
Il voyait Ségol. Il voyait qu'il était entouré d'une lumière.
Une lumière.
Il est sans téfiline avec téfiline. Et, ouais. Et une femme avec les cheveux couverts et pas les cheveux couverts.
Intéressant.
Et alors, il voyait une lumière violette qui entourait l'individu qui venait de faire la mitzvah ou qui était sur le point de faire la mitzvah. Ou qui faisait la mitzvah.
Donc c'est sauvé ça. Alors attention, on va expliquer.
Il y a du ultraviolet.
Comment
il
voyait oui.
Ça voilà, c'est les radiations, il faut faire.
Mais ça, hein, cette lumière-là,
que tu dis. Alors, qui me disait ça, il me disait, comment on dit violet en hébreu?
Ségol.
Ségol. Ouais. On dit Ham Ségoula.
Ham Ségoula. Oui, mais attention. Cette lumière-là que tu es en train de parler ici, est une c'est une lumière.
On se calme.
Alors, cette lumière.
Je meurs pour en théorie.
Donc là, il y a une lumière. Donc là, il y a une lumière qui nous entoure, ça veut dire.
Oui.
Hein? Bon. Alors, attention.
Mais c'est pas de ça qu'on.
C'est pas de ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que cette lumière que tu as à me dire ici, par définition, si on peut la voir, donc on est déjà dans la définition de Memalé. On est dans la définition de la lumière qui va intégrer le monde. C'est-à-dire qui va être là, qui va être présente. Après, est-ce que ça va être dans ma peau ou autour de ma peau, mais ça intègre le monde. Ce veuve que la lumière, tel que nous dit le Zohar, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que tout ça. C'est quelque chose qui entoure le monde. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire entourer le monde? Ça peut pas être matériel, ça peut pas être physique. Puisque même avant même d'arriver, avant la rupture, dans le spirituel déjà la notion géographique n'existe pas. C'est-à-dire que si on vous demande où est le Gan Eden, où il est le Gan Eden?
Il est pas ici.
Il est là.
Non, il est pas là.
D'accord? Il est là le Gan Eden. Il est ici le Gan Eden. Il est partout le Gan Eden. Il est partout le Gan Eden.
Sur l'iPhone, si tu veux. Il y a une application.
J'ai peur, hein. Imagine t'arriver chez Mario Kart ici, là.
Même.
D'accord? Il est partout le Gan Eden. Il n'y a pas de notion d'en haut, d'en bas, à droite, à gauche. Il n'y a pas. C'est pas ailleurs. Le Gan Eden est ici. Il est partout. C'est spirituel. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu il nous entoure? Si déjà après la rupture, je vous avais prévenu que c'était pas facile. Hein. Si déjà après la rupture, il n'y a pas de notion de géographique spirituellement. À plus forte raison qu'avant la rupture, il n'y a pas de notion géographique. Alors c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit qu'Adash Boru nous entoure? Il explique. Et la Rotseloma, seulement, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'Adash Boru il nous entoure? Il explique ici. Il dit... Alors, oui, seconde. Oui. Peut-être on va donner un exemple. On va donner d'abord un exemple, avant d'avancer un peu plus loin. Rav Stendel, ici, il amène un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ici quand il dit ici qu'une lumière s'habille dans quelque chose? C'est quoi cette notion de s'habiller? On a compris qu'il y a un concept d'énergie, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une énergie habille quelque chose? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Parce que c'est le terme qu'il emploie dans le Tania ici, et c'est le terme du Zohar aussi. Il dit qu'il y a une énergie qui va habiller la chose, et il y a une énergie qui va entourer la chose. Ça veut dire quoi que l'énergie habille la chose? Donc, on peut expliquer qu'une énergie forme quelque chose, qu'elle fait vivre quelque chose, mais ouais. Ça veut dire quoi qu'une énergie habille quelque chose? Alors, on ne peut pas comprendre ça à 100%, mais on peut donner un exemple. On peut donner un exemple de la physique. Quand on a, par exemple, voilà, imaginez-vous que je prends le mouchoir, j'ai un mouchoir ici, je vais le lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer quand il va tomber? Pourquoi il va tomber?
L'attraction terrestre.
Bon. L'attraction terrestre.
Aussi, hein.
Une seconde. Donc c'est quoi l'attraction terrestre, ça veut dire quoi? L'attraction terrestre, ça veut dire qu'il y a une forme d'aimant au centre de la Terre qui va attirer tous les objets autour d'elle. On est d'accord? Tous les objets, tous les liquides autour d'elle. Bon. Quand l'objet il va tomber, d'accord? J'ai un objet ici qui est formé, c'est un mouchoir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On explique en physique que ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'objet va être habité. Donc là, on peut vraiment employer le terme habillé. Il va être pris par la force de l'attraction qui va le faire tomber. Et en vérité, la force de l'attraction attrape tout ce qu'il y a dans le monde. Et tant qu'on ne l'arrête pas, ça continuera à tomber, on est d'accord ? C'est une force, c'est une énergie. Alors bien sûr qu'on ne la voit pas, cette énergie. Mais c'est un exemple avec lequel on peut comprendre. Avec cet exemple-là, on peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que quelque chose habille ? Ça veut dire quoi, habiller ? Ça veut dire que cet objet-là qui est là, qui m'a l'air un mouchoir, normal, sans rien, mais en vérité, quand je le lâche, je réalise qu'en vérité, ce mouchoir-là est habillé, c'est-à-dire que ce mouchoir-là est entouré d'une traction qui est en train de le tirer. La preuve, j'enlève ce livre-là, il va tomber. J'enlève la table, il va tomber encore plus. Ça veut dire que constamment, il est habillé d'une force qui le tire, qui le tire, qui le tire. C'est quand on dit le terme habillé, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que on peut avoir un objet qui est habillé d'une force extérieure qui est en train de le tirer à faire quelque chose. Alors, maintenant, on veut expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-vous, on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu me dis qu'il y a eu Akadosh Baruch Hu avant la rupture, il y a eu la rupture, après il y a eu un système de cause à effet qui fait que le monde soit créé, donc cause à effet, cause à effet, cause à effet, qui fait que j'ai ma boîte de carton devant moi. Ok. Alors on a dit que dès qu'on démarre depuis le point A du cause à effet, ça veut dire après la rupture, là on est dans un vrai système de cause à effet et c'est une énergie qui va intégrer le monde. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, mais elle va intégrer le monde. Mais tu me dis que l'énergie qu'il y a, mais tu me dis que ce qui c'est, que le Akadosh Baruch Hu qui est avant la rupture, il aura aussi un impact sur le monde. Mais un impact makif, ça veut dire un impact qui va l'entourer. Ça veut dire quoi un impact qui va l'entourer? Alors là, ce qu'il va expliquer le Mourazak. Et la Rotseloma, Kovev ou Makif, Milmala. Seulement ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va. Qu'est-ce que ça veut dire quand on emploie le terme d'entourer ou d'intégrer? Est-ce que c'est pas géographique? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et la Rotseloma, Sov, Makif, Milmala, Leinian, Prinat, Gilouy, Ashpa. Dire comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a aucune différence dans la forme comment Akadosh Baruch Hu envoie de l'énergie. Et même si le Zohar nous dit que dans un, ça va intégrer la chose, et dans l'autre, ça va entourer la chose, en vérité, dans tous les cas, ça intègre toujours la chose. Alors pourquoi, pour la lumière de Ein Sof, je dis que c'est pas une énergie qui m'intègre, mais c'est une énergie qui m'entoure. Pourquoi on dit ça, hein? Le nom va se faire par rapport à la manière comme on arrive à percevoir la chose. Essayez de m'écouter, mais il y a bon, si on a compris ça, après on pourra avancer. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, la manière comment il va envoyer l'énergie avant la rupture et après la rupture, c'est exactement la même manière. Il n'y a pas de différence. C'est kiff-kiff. Il n'y a pas ni l'entour, ni rentre, c'est la même chose. Alors pourquoi le Zohar me dit que l'énergie qui vient d'avant la rupture, elle vient sous forme de... elle enveloppe, comme tu as dit, et l'énergie qui est après la rupture, elle va nous intégrer. Pourquoi il nous dit cette différence? La lumière, elle, n'a pas changé. C'est seulement un nom que l'homme va lui donner par rapport à la manière qu'il a de percevoir la chose. Je vais donner un exemple physique. Un exemple physique, avec ça, on va comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, on sait qu'en psychologie, on explique qu'il y a en psychologie, on dit que quand une personne parle, quand une personne est en train de transmettre un message, il y a le dit et il y a le non-dit. Vous avez déjà entendu parler certainement de ça. Il y a le dit et il y a le non-dit. C'est-à-dire comme ça. Prenez par exemple un professeur qui va enseigner quelque chose à ses élèves. Il va enseigner quelque chose à ses élèves. Il y a le dit. C'est quoi le dit? C'est la notion qu'il va expliquer à ses élèves. Et bon, si la notion est assez claire, ils vont comprendre, ils vont sortir du cours, on va leur demander qu'est-ce que tu as appris. Là, il va dire, j'ai appris ça. Il va te répéter l'idée. Ça, c'est le dit. On est d'accord? Ça, c'est le dit. Le dit, ça veut dire c'est ce qui a été dit, ce que l'élève est conscient qu'il a appris, et ce que l'élève va répéter. Il y a le non-dit aussi. C'est quoi le non-dit? Le non-dit, c'est ce qui fait par exemple que, au bout de 20 ans que je vais être avec le même prof, je vais me mettre à réfléchir comme lui. Ça veut dire que le professeur, inconsciemment, il m'a transmis pas seulement des messages, mais il m'a transmis aussi une manière de réfléchir. C'est des messages cachés. Par sa manière de s'exprimer, par ses gestes, par son regard, il m'a transmis en parallèle à l'enseignement qu'il m'a transmis, pour moi, quand j'étais en cours, j'ai écouté que l'enseignement. Et je serais capable de répéter que l'enseignement. Mais en vérité, en parallèle à cet enseignement, il y a un non-dit. D'accord ? Et bon, Dieu préserve, c'est une des grandes techniques qu'utilisent les manipulateurs, ils jouent beaucoup avec le non-dit. Ils jouent beaucoup avec ça, ça veut dire qu'ils vont, ils vont parler à quelqu'un, etc. Donc dans le dit, tout sera parfait. Et ils vont s'arranger pour que dans le non-dit, ils vont manipuler la personne. De manière à ce que la personne, quand elle va se sentir manipulée, elle va vouloir attaquer celui qui le manipule, mais elle peut pas.
Parce qu'il a dit.
D'accord ? Parce qu'il a pas dit. Dans le dit, il n'y a rien. Dans le dit, il n'y a rien du tout. Mais si tu, si tu analyses le non-dit, là, tu vas trouver des choses. D'accord ? C'est
la technique des Arabes.
La technique des Arabes, le dit et le non-dit. Bon, c'est la technique du manipulateur.
La paix, pas d'un coup fin, et puis...
C'est une grande technique du manipulateur.
C'était un appartement.
D'accord ? Des Palestiniens, t'aimes pas le mot palestinien toi.
Pourquoi je...
Hein ? C'est nous les Palestiniens.
Non.
Hein ? La Palestine.
On est les Juifs. J'ai compris ce que tu veux.
Donc on disait, il y a le dit et il y a le non-dit. Alors, quelle est la différence ? Donc imaginez, voilà, vous sortez d'un cours. Vous sortez d'un cours, donc on a dit, donc en vérité, j'ai donné l'exemple d'un cours, mais c'est chaque chose. D'accord ? Ça veut dire par exemple votre femme, elle va vous parler. Il y a le dit et il y a le non-dit. C'est qu'au bout d'un certain temps, bah, sur certains points, on va se mettre à réfléchir comme sa femme. D'accord ?
C'est tout le reste. C'est la gestuelle, c'est le regard.
C'est pas seulement ça. C'est...
Si, c'est ça.
C'est des choses...
Qu'est-ce qui est dans le non-dit ? C'est la perception que tu peux avoir de l'autre individu.
Voilà.
Donc, qu'est-ce que tu as comme signaux, à part le son ? C'est tous les
autres... Il y a des milliards. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué la semaine dernière, il m'a montré un livre dans lequel il y a des milliards de formes d'expression du corps. On peut même c'est pas ça. S'imaginer le nombre de combinaisons qu'il y a.
D'accord. Donc c'est ça. C'est tout ce qui est autre chose que la parole. Que
juste dans le regard. Il y a des milliards de catégories de regards. Juste dans un regard. Nous on croit que. Nous on croit que bon, il y a ou la personne me regarde ou elle ne me regarde pas. 0, 1. Mmh. En vérité, c'est complètement faux. Il y a des myriades de catégories de regards. Et juste dans le regard déjà, on peut transmettre une information. Mais une information non dite. Que la personne n'est même pas capable de décrypter. Il ne sait pas quelle information est passée. Il ne peut pas savoir. Mais d'accord ?
Je suis passé là comme ça. Qu'est-ce que je t'ai passé ?
En fait, je suis passé là.
Bon. Donc le dit et le non dit. Donc donc pourquoi je dis ça ? Vous allez comprendre tout pourquoi. Donc imaginez-vous que je sors d'un cours. Voilà, je sors d'un cours. Et
le dit, c'est ce que tu as intégré.
Voilà.
Et le non dit, c'est ce que.
C'est ce que j'ai intégré. Attention.
Mais sous une forme différente.
Est-ce que j'ai pas intégré le non-dit ? Si, j'ai intégré le non-dit. La preuve, c'est qu'obligatoirement, ça a eu un impact sur moi.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on dit que par exemple, quand il vient à un cours de Torah, même s'il n'a pas compris ce qui a été dit dans le cours, que le dit, il n'a rien compris, mais c'est obligatoirement, le non-dit a eu un impact sur lui, obligé. Et quelque part, ça lui a fait quelque chose. Ah, il le sent pas, mais ça l'a quand même intégré. Alors, on va se poser la question maintenant. Alors, quelle est la différence entre le dit et le non-dit ?
Quels sont les effets différents ? C'est ça ?
Quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a un effet différent ? La réponse est non. Et plus que ça, très souvent, le non-dit a plus d'impact que le dit.
Donc, la réponse est oui.
D'accord ? Donc la réponse à cette question, c'est que le non-dit va intégrer la personne autant que le dit. Et pourtant, quand je vais sortir du cours, d'accord ? Tu vas me poser la question, tu vas me dire, qu'est-ce que le professeur a parlé ? Je vais te dire, voilà, il a dit ça et ça et ça. Donc le dit, il est défini, je l'attrape, il m'a intégré. D'accord ? Tu veux dire, bon, mais quel sentiment général tu as eu dans le cours ? Tu vas pas être capable de répéter, c'est quelque chose qui t'a enveloppé comme ça, tu as eu une certaine sensation, mais tu peux pas être, t'es pas capable de la reproduire, t'es pas capable de l'expliquer. Mais tu peux pas dire qu'elle ne t'a pas intégré, parce qu'elle t'a intégré. Elle a un impact sur toi. Et pourtant, qu'est-ce que je vais dire ? Voilà. Je vais dire, oui, ça m'a enveloppé. Mais non, ça t'a pas enveloppé, ça t'a intégré. Ça t'a peut-être même intégré encore plus que l'idée du cours. Parce que l'idée du cours, peut-être demain, tu l'auras oublié. Alors que le non-dit qui t'a intégré, c'est pratiquement impossible que tu vas l'oublier. Alors pourquoi je dis que il y avait une ambiance, d'accord, ça m'a enveloppé. Pourquoi j'emploie le terme enveloppé ? Parce que c'est ma perception qui fait que je vais utiliser deux expressions différentes. Pour ce que je comprends, ben je vais dire, j'ai compris, j'ai intégré. Et ce que je comprends pas, même si en vérité, ça m'a peut-être intégré, mais comme j'arrive pas à le percevoir, j'arrive pas à le définir, ben je vais dire que ça m'a enveloppé, mais que c'est une ambiance, et ça m'a entouré, mais je veux pas dire que je l'ai intégré. Vous prenez dans l'exemple que je veux dire ici ? Qu'est-ce qu'on a démontré dans cet exemple ? Que c'est pas parce que je ne me rends pas compte qu'une chose m'a intégré, qu'elle ne m'intègre pas. Et au contraire, des fois le non-dit va m'intégrer encore plus que le dit. Et pourtant, le dit, je vais dire, voilà ce qu'il m'a dit, j'ai intégré, j'ai compris, je le répète. Le non-dit, je vais dire, oui, c'était l'ambiance, ça m'a entouré comme ça. Alors qu'en vérité, ça t'a intégré encore plus. Ça veut dire que la différence Et ça, ça va être la différence qu'on va dire spirituellement entre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est Sovev, et la lumière qui est Memalé, donc le non-dit et le dit. Jamais, à aucun moment, on va dire que le non-dit d'Akadosh, enfin le non-dit, je vais reprendre mon exemple, d'accord, c'est le non-dit d'Akadosh Baruch Hu ne va pas intégrer l'homme. Il va intégrer l'homme, pas seulement il va intégrer l'homme, il va intégrer l'homme encore plus peut-être que la lumière que nous on voit. Mais seulement quoi? Comme on le sent pas, comme on n'est pas capable de le palper, de le définir. Donc on va dire que pour nous, c'est du non-dit, pour nous c'est sauvé, pour nous ça nous entoure. En vérité ça nous entoure pas, en vérité ça nous intègre, parfaitement, entièrement, à 100%. Pourquoi je vais employer le terme entouré? C'est par rapport à la perception de l'homme, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, il nous intègre de toutes les façons. C'est par rapport à la perception de l'homme. Par rapport à la perception de l'homme, il y a certaines choses que l'homme va dire, ça j'ai compris. Voilà, il va ouvrir une page de Gemara, il va comprendre. Il va ouvrir une page de Tanya, ça va être un peu compliqué, mais il va comprendre. Ça, même aller. Ah, ça, il attrape, ça.
Et la d'accord mitzvah.
D'accord. Et tu as la mitzvah. Tu vas faire une mitzvah, hein. D'accord. Donc ça, enfin, je vais étudier par exemple la Torah, on dit que la Torah, c'est même aller. C'est que la Torah, on peut la percevoir. Même les parties les plus profondes de la Torah, on peut les percevoir. Ça va peut-être être difficile. Ce sera peut-être une perception très difficile. Peut-être que le professeur, le dit du professeur est très difficile, c'est possible. Mais,
peut-être
mais c'est accessible. Mais la mitzvah, quand je prends une peau de parchemin, hein, et je vais écrire dessus un Sefer Torah, jamais on pourra avoir une lumière autour d'un Sefer Torah. La lumière, la vraie lumière qui est autour du Sefer Torah, jamais on pourra la percevoir. On pourra peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose qui l'enveloppe. Voilà, c'est comme le non-dit, ça veut dire que c'est pas défini. On pourra, bon, à la limite, avec, peut-être après beaucoup de préparation, et encore, je sais pas si c'est pas psychologique, mais on va dire que c'est pas psychologique. On va dire qu'après beaucoup de préparation, une personne que tu l'auras un Sefer Torah dans la main, il va sentir quelque chose de spirituel qui l'enveloppe. Mais jamais il pourra dire qu'il a intégré la Kedusha du Sefer Torah. Qu'il a compris, qu'il a intégré comme il aura intégré une page de Torah. Impossible. Pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est sauvé. Par définition. Alors, encore une fois. Ça ne veut pas dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu n'intègre pas le Sefer Torah. Ça ne veut pas dire que la Kedusha du Sefer Torah ne m'intègre pas. Bien sûr qu'elle m'intègre. Elle m'intègre certainement plus que la Torah. Plus que la Torah. Et c'est pour ça que dans la Gemara, il y avait une grande marloquette. Qu'est-ce qui est plus important entre la Torah et les mitzvot? Une grande marloquette. Et c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est l'étude. Pourquoi l'étude? Parce que c'est seulement grâce à l'étude qu'on peut arriver à l'action. Mais ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le but? C'est la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il s'écrit que quand Mashiach va venir, là on réalisera, et plus on s'approche de Mashiach, plus on le comprend, que là on va comprendre qu'en vérité, c'est la mitzvah, c'est le plus important, c'est le non-dit. Le non-dit est beaucoup plus important, a beaucoup plus d'impact que le dit, il n'y a pas photo. Sauvez, même aller. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on comprend? Rappelez-vous, enfin, il faut pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire ici, on est en train d'essayer de poser des repères pour comprendre ce qui s'est passé là. Donc on a vu qu'il y avait Akadosh Baruch Hu avant la rupture, après la rupture. Alors Akadosh Baruch Hu de avant la rupture, il continue à avoir un impact sur nous, mais c'est un impact que nous on appelle indirect. C'est un impact que nous on va appeler un impact flou. Mais en vérité, il nous intègre très fortement. Mais comme on ne voit pas, on n'arrive pas à le définir. Voilà, je peux pas définir la Kedusha dans Sefer Torah. Je peux pas. Ce qu'il y a de plus Kadosh dans Sefer Torah, on est d'accord? Je peux pas définir la Kedusha dans Sefer Torah. Je peux pas. Je peux définir une page de Gemara. Je peux comprendre. Je peux la définir. Je peux dire que je l'ai intégré. Mais la mitzvah, tu pourras jamais l'intégrer. Donc avec ça, Admor HaZaken, tu dis que, attention, ne fais pas d'erreur. Quand on te dit dans le Zohar la différence qu'il y a entre Sovev et Memalé, entre ce qui nous entoure et ce qui nous intègre, ne fais pas l'erreur de penser que ce qui nous entoure, ça veut dire que ça nous entoure et que c'est pas là et que ça nous intègre pas. Non, ça nous intègre. Et certainement que ça nous intègre encore plus que la Torah. C'est pour ça que le Rabbi l'a dit que dans la dernière génération, puisqu'on s'approche de Mashiach, il faut faire un maximum de mitzvot. Et on met un point particulier sur les mitzvot. Alors que dans les générations d'avant, on donnait un impact particulier sur la Torah. Pourquoi? Parce que plus on s'approche de Mashiach, et plus on se rend compte de la réalité, on se prépare à ce qui va se passer quand Mashiach va venir, et quand Mashiach va venir, on va comprendre que le non-dit était beaucoup plus important que le dit. D'accord? Donc pourquoi explique tout ça le Morazaken? Il a expliqué tout ça pour expliquer la différence entre Sovev et Memalé. Dans les mots. Alors. On va lire dans les mots. On va lire un peu, je vais aller un peu rapidement parce que j'ai expliqué à l'oral. Vous avez compris, c'est bon ?
Par contre, tout ça, toute cette explication, c'était pour nous sentir attachés à Kadosh Baruch Hu, bien qu'il y ait une...
Bien qu'il y ait une rupture.
Alors, comment par rapport à cette lumière
voilà.
Qui intègre ou qui entoure,
voilà.
Quel rapport avec maintenant
Alors, le rapport, c'est qu'il y a un rapport, mais même si on ne le perçoit pas, on ne peut pas le percevoir. Par définition, on ne pourra jamais le percevoir. D'accord ? On ne pourra jamais le percevoir.
Pourquoi ? Comme si cette lumière qui intègre l'individu, elle ne vient pas de Akadash Baruch Hu avant rupture. Elle vient après.
La lumière qui intègre l'individu, elle peut pas. La lumière qui non. La lumière qu'on sent qu'elle nous intègre,
oui.
Elle peut venir que d'après la qu'après la rupture.
Après rupture, c'est ça.
Cause à effet.
D'accord.
Mais la lumière qui est avant la rupture, elle pourra, elle va nous intégrer. Mais jamais on se rendra compte qu'elle nous intègre.
Mais elle vient
d'avant. On va se rendre compte à certains moments, on va se rendre compte qu'elle nous entoure, qu'elle nous enveloppe. Voilà, je me rends compte que je me sens bien quand je fais une mitzvah.
Et c'est grâce à celle-ci qu'on s'attache à l'être primordial, à Hachem, avant rupture.
Non, pas forcément. Non, ça c'est une autre question, ça. C'est une autre question, parce que même après la rupture, il y a un rapport avec ce qu'il y avait avant. C'est une autre question, ça. Oui.
Non, mais bien sûr, mais on a dit qu'on pouvait pas remonter parce qu'Hachem avait fait que...
Oui, d'accord.
On pouvait pas remonter après cette cassure.
Oui, mais ne pas pouvoir remonter, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport. Attention.
Oui, c'est ce que disait Yonel.
Voilà, attention.
Non, j'ai pas dit ça.
C'est pour ça que l'Admor HaZaken, avant même de commencer à expliquer ça, il a dit, les détails de la rupture, on va pas les aborder maintenant. C'est pas le sujet. Nous, ce qu'on veut simplement, rappelez-vous, notre but ici, c'est de mettre des repères. Le problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à se sentir redevable envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait pas qui est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est par rapport à nous. Alors, on va pas expliquer qui est Akadosh Baruch Hu, parce qu'on pourra jamais l'expliquer. Mais on va expliquer pourquoi on peut pas expliquer Akadosh Baruch Hu. On va expliquer pourquoi on peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu. Et en comprenant ça, ça sera plus facile de comprendre la distance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et plus on comprendra la distance, et plus on comprendra qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils font une mitzvah, ils disent, voilà, Dieu, je t'ai fait ci, rends-moi ci. On réfléchit comme ça. Parce que, pour nous, bon, hein, moi, je suis petit, Akadosh Baruch Hu est grand. Hein, comme ça, moi, je suis petit, Akadosh Baruch Hu est grand. Bon, ok, mais, tu prends un par rapport à un milliard, c'est quelque chose. D'accord? C'est pour ça qu'on réfléchit comme ça. Mais là, on va t'expliquer que pas du tout. C'est pas du tout le même calcul. Alors c'est pour ça qu'on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, on va avoir en vérité deux énergies en parallèle, le dit et le non-dit. Akadosh Baruch Hu, il y a le dit, c'est tout ce qui est démarré à partir de la tout ce qui va démarrer à partir de la rupture. Ça, c'est ce qu'on appelle le Memalé Kol Almin, qui va intégrer la nature. Et on a ce qu'on va appeler le non-dit, d'accord? C'est tout ce qui va nous intégrer, mais sans qu'on se rende compte, sans qu'on soit capable de le définir. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu d'avant à la rupture.
Ça, c'est celle-ci qui va nous attacher à lui? C'est comme ça
non, les deux. Non, les deux nous attachent à lui. Les deux. C'est par deux voies différentes, c'est tout. Les deux nous attachent à Akadosh Baruch Hu. En étudiant la Torah aussi, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Puisque la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu.
Ce qui est bizarre, c'est que la lumière qui était avant rupture, c'est les mitzvot. Et que la lumière qui est après, c'est la Torah. Alors, alors que la Torah était avant la rupture, et que les mitzvot, on les applique qu'après la rupture.
On parle de la Torah, encore une fois, c'est la même question. On parle de la Torah, hein, telle qu'elle est après la rupture.
Qui est l'étude.
D'accord ? Ce qui est l'étude. Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui je peux étudier. Mais comment on étudie au Gan Eden ? Tu me dis que la Torah, c'était le plan d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. D'accord ? Mais ce plan d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde, il était avant la rupture. Mais après, quand Akadosh Baruch Hu fait la rupture, ben, ça a pris une autre forme, c'est-à-dire ça a pris une forme qui est pas la même que celle qu'il y avait avant.
Pourquoi il était avant la rupture?
Pardon?
Pourquoi la Torah a été créée avant la rupture?
C'est son plan.
Et pourquoi il n'a pas été créé après?
C'est le plan avant qu'il crée le monde.
Compris. Pourquoi il n'a pas été créé après? Pourquoi tu dis qu'il n'a pas été créé après?
Parce que c'est le plan avec lequel il a créé le monde.
Ben, le plan aurait pu être créé après la rupture.
C'est le plan qui a été créé avant même que la rupture soit créée.
Et la rupture,
c'est écrit que la Torah, Alpaim Shana Kadma Torah Laolam, que la Torah vient avant le monde. Ça veut dire qu'avant même que Dieu a pensé de créer les malachim et de créer, etc., il avait déjà créé la Torah. Ça existait déjà. Sauf que quoi? Non,
mais ça veut dire que la Torah est comparable à Hachem?
Bien sûr. Il y a trois choses. Il y a Israël, la Torah et Dieu. D'accord? Israël
va se tâcher. Comparable à
Hachem. Oui. Mais la Torah, d'accord?
Pourquoi la Torah n'a pas été créée après rupture, puisque la Torah n'est pas...
Une question. On dit comme ça, on dit, c'est écrit que Oraita avec... Bon, c'est des notions qu'on verra après de ça dans les Guérettes à Kodesh, tout ça. On dit que c'est le vous verrez dans Patach Eliyahu ça aussi, je crois que c'est traduit aujourd'hui. On dit que Oraita v'kutcha b'ruchu kulachad, que la Torah et Dieu, c'est une seule entité. Pourtant, c'est pas une seule entité. Comment tu peux dire que voilà, ce qu'on étudie aujourd'hui, même la Gemara qui est matérielle, ça peut être une seule entité avec Dieu. Parce que, justement, parce que la Torah est descendue. C'est comme les Neshamot, ils sont descendus. Donc quand ils sont descendus, ils ont pris une certaine forme. C'est une forme qui reflète dans le matériel ce qui se passe spirituellement. C'est un miroir de ce qui se passe en haut, mais en mode matériel. D'accord ? Mais la vraie Torah, on va dire la vraie Torah, d'accord, celle qu'elle est à la base, Shakadosh Baruch Hu, ça on peut pas la voir. C'est la vraie Torah qui a été le plan d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde, on peut pas la voir cette Torah. Impossible, parce qu'il y a une rupture. Il y a une rupture qui a tout coupé. Il y a une rupture qui a tout coupé, ça veut dire qui a fait que... Bon, après, encore une fois, c'est une autre question qui se pose. On verra après tout ça. Est-ce que la rupture a été que pour nous, ou la rupture a été pour Dieu aussi? Bon, c'est les autres questions, ça, qu'on verra. Ça fait partie de la notion la plus profonde de la Chassidoute.
Le Tohu et le Vohu, c'est quoi dans la rupture? C'est un rapport avec la rupture? C'était ça, la rupture?
Le Tohu, c'est ça la rupture.
C'est ça la rupture.
Non, la question est, est-ce que la rupture était que envers les ceux qui vont recevoir, ou la rupture était aussi pour celui qui va donner, pour Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est les autres questions qu'on verra après. Je sais que c'est une notion compliquée. Ça fait partie des notions les plus compliquées. En tout cas, ce qu'on fait ici, c'est qu'on place des repères. Donc là, on a compris que, en vérité, l'énergie qui nous enveloppe, il y a le dit, il y a le non-dit, mais en vérité, ça nous a chamboulé. Parce qu'on a compris que ce qu'on croit avoir compris, ce qu'on croit qui nous intègre, moi je crois que la Torah, je l'intègre, les mitzvot, je ne les intègre pas. En vérité, les mitzvot, peut-être qu'ils m'intègrent plus que la Torah. Alors pourquoi je dis qu'elles ne m'intègrent pas? Pourquoi je les appelle sauvèves?
C'est une perception.
Parce que c'est ma perception, dans ma perception. C'est par rapport à ma perception. Mais c'est pas par rapport à la réalité des choses, telle que c'est réellement. Donc dans les mots. Kiyash pa'a. Chez Ibiprinat, vous êtes dans les mots qui a H pas, je ne sais pas où c'est dans la page. Dernière ligne. Avant-dernière ligne,
c'est tourné.
Samerchet. C'est là, tu as la page là.
Tu es déjà au.
Non, je suis tourné là, moi.
Non. Samerchet. C'est là. Qui a H pas, voilà. Non, attends.
Ah, j'ai tourné moi.
Il est déjà bien
à. Ah, d'accord, oui.
Il surpasse. Voilà,
qui hache pas.
Voilà, j'étais en train de lire un peu.
Et la bande d'analyse.
Qui hache pas.
Qui hache pas, chez Prinat Gilou Ibo Alamot, qu'en vérité, qu'est-ce qui fait qu'un on l'appelle, qui va nous entourer, l'autre on dit qui va nous intégrer? L'énergie d'Akadosh Baruch Hu, qui va être dévoilée, qui va nous être dévoilée, c'est-à-dire qu'on pourra ressentir, Nikra Devesham Al-Bacha, elle, on va dire qu'elle nous habille, on va dire, ah, je la sens, celle-là. D'accord? Pourquoi? Parce que Mitla Beshet Bolamot, elle, on va dire qu'elle s'habille dans les mondes, qui est Malbishim ou Matsigim Hashpachemekavim, parce que c'est quelque chose qu'on est capable de comprendre, d'accord, de définir. Mashen Ken Hashpachein avait pris notre Gilouï, alors que l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, Shein avait pris notre Gilouï, qui n'est pas pris notre Gilouï, ça veut dire qu'il n'est pas dévoilé. Et la Bester VLM, mais qui est voilée. Mais en vérité, elle nous intègre peut-être plus que la première. Mais nous, on la voit pas. Moi, je vois pas comment ça fait tourner Kadosh. Je peux peut-être le sentir, mais je peux pas le percevoir comme j'aurais perçu une page de Gemara. V'en la mot masigimota. Donc, le fait que dans notre perception, on peut pas la percevoir. Eina mitla bechet. On va dire que elle va pas s'habiller. Elle ne va pas intégrer. Et la makifet vesovevet, on va dire qu'elle va être makifet sovev, qu'elle va entourer, d'accord, et qu'elle va rayonner, ou elle va envelopper, d'accord. Mais ça ne veut pas dire ici, chas v'shalom, ça ne veut pas dire ici, chas v'shalom, que ça ne nous intègre pas. D'accord, je veux conclure avec un point de la Gemara, que nous dit la Gemara Vodazara. La Gemara Vodazara nous dit la chose suivante, elle dit que « loka eini shadata derabet arbaim shenin ». Elle dit qu'un homme arrive à comprendre vraiment ce que son maître voulait dire seulement au bout de 40 ans. C'est-à-dire. C'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire pendant 40 ans, c'est-à-dire imaginez-vous, je vais chez un maître, il m'apprend quelque chose, d'accord? On se dit, tu réussiras à comprendre vraiment ce qu'il t'a dit que dans 40 ans. Et j'ai compris, le cours, je peux répéter le cours. C'est-à-dire quoi, j'ai pas compris? C'est-à-dire, j'ai pas compris? C'est-à-dire quoi, c'est quoi cette histoire? Et une manière d'expliquer, c'est que quand le Rav m'a transmis, il m'a pas transmis que le dit, il m'a transmis aussi le non-dit. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai entendu chez le Rav, j'ai entendu pour l'instant que le dit. Donc je ne pourrais jamais comprendre comme le Rav. Puisque le dit, c'est ce que le Rav a pu me transmettre. Mais le non dit, ce qui est l'essence du Rav, ça je ne l'ai pas. Ça je l'aurai au bout de combien de temps le non dit? Au bout de 40 ans. Arbaim Shinim. Ça veut dire que il ne faut pas se fier à ce qu'on croit comprendre. En vérité, pardon, il y a des choses qui nous sont transmises et qu'on intègre sans même qu'on se rende compte. Ilkar. Oui, on va lire, on va faire jusqu'au point. Ilkar, c'est pour ça. Mais achar, shalamat miprinat gvulvetachlit, puisque les mondes sont miprinat gvulvetachlit, puisque notre monde par définition, même les mondes spirituels, oui, tout est limité par définition. Nimtsa she'en hashpa'at or ensof mitlabesh mitgaleh ba miprinat gilui. Même au Gan Eden, la lumière de ensof ne pourra jamais intégrer le Gan Eden. Elle pourra simplement entourer le Gan Eden. Ça ne veut pas dire qu'elle l'intègre pas. En vérité, elle l'intègre. Mais jamais, même le Gan Eden, on pourra jamais percevoir cette lumière comme une lumière qui va intégrer le Gan Eden. Toujours, on va croire qu'elle nous entoure, qu'elle nous enveloppe. Alors qu'en vérité, elle nous intègre. Comme la différence que je vous ai expliquée entre le dit et le non-dit. Que c'est pas parce que je me rends pas compte que ça m'intègre, je crois que ça ne m'intègre pas, que ça m'intègre pas. Ça m'intègre, en vérité. Umitlab rak me'at umitgal et bam prinat gilu rak me'at miser ahara mouetet mitusen mod me'od veirak edel la chayotem prinat gvul vetachli. On s'arrête ici. Que nous, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va penser qu'on intègre, en vérité on intègre tout, mais ce qu'on va penser qu'on intègre, c'est seulement la quantité infime de lumière qui fait qu'on est vivant. Donc nous, par exemple, nous quand on va dans ce monde-ci, d'accord, qu'est-ce qu'on va être capable de percevoir? Bah, chacun à son niveau. Il y en a qui vont être capables de percevoir un peu de halakha, il y en a qui vont aller un peu plus loin, ils vont être capables de percevoir la Gemara, il y en a qui vont être capables un peu plus loin, ils vont être capables de passer à la pensée juive, au Zohar, à la Kabbalah, à la Chassidut, d'accord? Mais c'est une perception qui est minime par rapport à l'impact d'une mitzvah. C'est rien. Ça, c'est du dit, tout ça. C'est rien par rapport au non-dit. Tout ça, c'est rien par rapport à une mitzvah. Parce qu'une mitzvah, c'est du non-dit. Une mitzvah, c'est quelque chose qui m'intègre sans que je le sache. Ah, je le sens pas. Je le sens pas. La Torah, je sens que je comprends, j'attrape, mais la mitzvah, je sens pas. Bon, peut-être je sens que ça m'enveloppe, mais je sens pas que j'intègre, que je peux le percevoir, je sens pas. C'est pas parce que je sens pas que ça ne passe pas comme ça. La preuve, le non dit. C'est pas parce que je l'ai pas senti au moment de la conférence, pas pour autant qu'en vérité, c'est rentré dans moi, la preuve, dans 40 ans, je comprendrai le non dit. D'accord? Donc avec ça, on n'a pas fini encore. Mais on commence à poser des repères, d'accord? Donc si on va dire, si le cours de la semaine dernière était principalement pour expliquer le fait que la différence qu'il y a entre le fini et l'infini, on a expliqué à Chanel longuement comment c'était, donc on l'a répété un peu aussi au début de ce cours, comment l'infini et le fini, c'est deux mondes complètement différents, que le fini c'est une notion de cause à effet, alors que l'infini c'est une autre notion complètement différente. Aujourd'hui on a expliqué la différence entre Memalé et Sovev, entre le dit et le non-dit, et on a expliqué qu'en vérité la différence n'est pas... La différence entre Memalé et Sovev n'est pas une différence sur la réalité des choses. En vérité, et Memalé et Sovev, les deux lumières nous intègrent. C'est quoi la différence? La différence va être seulement comment nous on va le percevoir, notre perception. Est-ce que je le perçois comme quelque chose que j'intègre, ou est-ce que je le perçois comme quelque chose qui est un flou? Mais en vérité, tout m'intègre. Et le Memalé et le Sovev. Donc, il est évident que la notion de Sovev, la notion de... La Kadosh Baruch Hu qui nous enveloppe n'est pas une notion géographique, c'est seulement une notion que les hommes ont donnée par rapport à la perception qu'ils avaient de la chose. On s'arrête ici. On repassera une petite couche dessus sur ce dernier point la semaine prochaine.
Dans 40 ans, on aura tout.